Je vois la main verte d'Alain Baraton, tout va bien. Bonjour Alain.
Tout va bien, bonjour Eric, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous nous parlez de l'albizia. C'est un petit arbre bien connu des amateurs de jardin.
Il existe près de 150 espèces d'albizia, mais celui que nous connaissons le mieux est l'albizia julibrissin. Ce petit arbre, vous l'avez dit, atteint avec peine les 10 mètres de hauteur. Et il est apprécié pour son feuillage très fin, qui ressemble à celui du mimosa logique. Il est de la famille des mimosacées. Il est d'ailleurs surnommé dans le midi de la France et aux États-Unis le mimosa rose, mais ne vous leurrez pas Eric, il est beaucoup moins florifère que son cousin originaire de l'hémisphère sud, celui qui fleurit jaune.
Qui est jaune, oui. Et pourquoi ce nom et d'ailleurs comment l'orthographier ?
L'albizia fut baptisé en l'honneur de Filippo del Albizzi, un naturaliste florentin qui a introduit ce végétal de Turquie en Europe en 1745. Précision utile pour celles et ceux très à cheval sur l'orthographe, et ils sont nombreux, si le nom de l'italien Albizzi s'écrit avec deux Z, celui de l'arbre, lui, n'en prend qu'un.
Et pourquoi julibrissin ?
La plante est née en Asie, pour être précis, en Chine, au Japon et en Iran. Pour simplifier à l'extrême, julibrissin est un mot d'origine persane qui signifie « fleur de soie », raison pour laquelle l'arbre est aussi appelé « arbre à soie ».
Alors justement, à quoi ressemblent ces fleurs ?
Il est toujours bien difficile de décrire à un micro une fleur, aussi ai-je consulté un dictionnaire botanique pour vous en parler. Le dictionnaire précise « fleur blanche, rose ou rouge, en glomérule isolée ».
En glomérule ?
Une inflorescence formée par le groupement de plusieurs fleurs sessiles.
Ouais, mais encore ?
Pompon soyeux formé d'un gros bouquet d'étamines.
L'arbre, alors, donc, vous l'avez souligné, il est introduit en 1745. Il doit donc être possible pour Louis XV d'en avoir dans son jardin à Versailles.
Non, et ce pour deux raisons. La première est que la plante a besoin de chaleur et de lumière pour bien fleurir, et ce n'est pas vraiment le cas en région parisienne. Il est certes possible d'en apercevoir quelques-uns, mais ils sont souvent en situation protégée et ont rarement fière allure. La deuxième raison est que s'il est exact que l'albizia est introduit sous Louis XV, il est alors cultivé dans des serres chaudes. Il faut attendre l'Empire pour qu'il soit vraiment planté dans les jardins.
Alors, un conseil, un dernier conseil peut-être pour ceux qui possèdent un albizia.
Alors, évitez de le tailler trop court, sinon il risque fort l'année suivante de ne produire que des feuilles et du bois, et ce serait dommage, car ce qui fait la somptuosité de l'albizia, ce sont ces fleurs qui, je vous le rappelle, sont en été toujours disposées en glomérules isolées.
À présent, Alain Baraton, vos réponses et vos conseils aux questions des auditeurs. Kikou, par exemple, vous demande « Puis-je rabattre avant travaux ?» un laurier que je crois être du Caucase.
Ah, le bon vieux laurier du Caucase. Alors, vous le connaissez, ce laurier le plus classique que l'on voit, qui constitue des haies fort épaisses, et les feuilles de ce laurier sont épaisses elles aussi, et c'est vraiment un végétal très résistant. Eh bien oui, quand vous prenez un laurier du Caucase, que vous le rabattez, allez, à un mètre du sol, en toute logique, il devrait redémarrer et refournir un végétal très, très fourni de la base. Mais attention, ce n'est pas parce qu'une plante est capable de redémarrer de la souche qu'il faut s'amuser régulièrement à le rabattre court. On le fait de temps en temps, mais n'exagérons pas non plus.
Toujours à propos de laurier, cette question de Martine, à propos des lauriers roses, quelle est la terre idéale ?
La terre idéale est une terre légère qui ne retient pas trop l'eau. Vous savez, les lauriers roses, on les voit souvent dans le sud de la France, dans le sud-ouest. Ce sont des terres sablonneuses dans lesquelles ils aiment prospérer. Alors quand vous en avez dans un jardin ou dans un pot, évitez la terre qui colle, la terre argileuse. Faites en sorte qu'il n'ait jamais les racines qui baignent dans l'eau. Donc toutes les terres de jardin lui conviennent, mais évitez surtout les terres qui retiennent l'eau.
Jacques vous demande « Me conseillez-vous de pailler mes potirons ?»
Alors oui, parce que le potiron, vous connaissez le potiron, cette grosse cucurbitacée
voilà, orange.
Oui, qui est magnifique. D'ailleurs, il est toujours amusant, en mai, je raconte n'importe quoi.
Période d'Halloween.
En juillet ou en août, de graver des petits personnages sur l'écorce épaisse. Et le potiron va continuer de grossir et vous avez de magnifiques dessins lorsque vous le récoltez. Le problème du potiron, c'est que le fruit dure longtemps et qu'en contact avec la terre, il risque fort de pourrir. Donc il est conseillé, soit on paille par-dessous le potiron, soit on met le fruit, le potiron, sur une planche en bois pour éviter qu'il ne se dégrade avec l'humidité.
Et on paille avec quoi ?
Bah on peut mettre alors de la paille, d'où le nom paillage, on peut mettre des copeaux de bois, on peut mettre également bien sûr des feuilles mortes, enfin quantité d'éléments, j'allais dire, ou de déchets végétaux qui ne risquent pas, en se dégradant, de transformer la structure du sol. Donc, si on a mis par exemple de l'écorce de pin, c'est possible, mais on n'oubliera pas, après la récolte du potiron, de retirer et d'évacuer l'écorce de pin, parce qu'elle ne conviendra pas pour la culture d'un potager.
Enguerrand a beau arracher les ronces sous ses arbres, les ronces reviennent systématiquement et il vous le demande, comment je peux les éliminer Définitivement.
Il y a longtemps que je n'ai pas employé le terme de l'huile de coude. C'est, oui, oui, l'huile de coude consiste à arracher, réarracher. Il n'y a pas de secret. Pas de secret. Soit vous arrachez manuellement, soit vous mettez des produits. Je crois qu'aujourd'hui, la planète en a assez de tous ces produits que l'on déverse dans la terre, dans l'eau et dans l'air. Donc, on arrache, on coupe. On n'oublie pas d'extraire au maximum les racines. Et on n'attend pas que la ronce fasse 2 ou 3 mètres de long pour s'y attaquer. Dès qu'elle apparaît, paf, un petit coup.
Paf.
Ça, voilà. Et on devrait y arriver très rapidement.
À coup de paf et d'huile de coude.
Mais tout à fait.
Estelle vous demande si c'est le bon moment pour rempoter un ficus.
Alors le ficus, c'est toujours la question qui revient régulièrement. Les plantes vertes, en général, peuvent se rempoter tout au long de l'année et il n'y a pas de souci. Je rappelle que les plantes vertes qui fleurissent, on ne rempotera jamais avant la floraison pour éviter justement de ne pas profiter de la floraison. Mais le ficus, qui est une plante qui a une floraison comme toutes les plantes, mais très discrète, oui, peut se rempoter maintenant sans aucune difficulté.
Dernière question, celle de Marthe. Elle vous demande s'il existe des plantes aquatiques flottantes.
Et oui, comme le mort de grenouille, qui est une petite plante qui ressemble à un nénuphar. D'ailleurs, on l'appelle le petit nénuphar, qui est assez agréable et qui flotte effectivement. Donc c'est l'intérêt uniquement sur les cours, sur les eaux dormantes, sinon hein, la plante est tout le camp. Et puis vous avez, bah oui, ça serait ballot, hein.
Ballot de les voir partir.
Et puis vous avez également le Stratriote faux aloès, qu'on appelle également ananas d'eau, parce qu'on dirait que c'est la petite couronne de l'ananas qui flotte et qui a l'avantage d'ailleurs d'oxygéner l'eau d'une mare. Donc ce sont deux petites plantes décoratives qui effectivement n'ont pas de racines, enfin ne sont pas relié à la terre.
À la terre, pas accroché. Et puis, un dernier conseil.
Oh, très beau. Comment découvrir les pivoines de Sourche? C'est un petit manuel. Le tome 1, hommage aux poilus. On fait, bien sûr, hommage aux victimes et aux soldats de la Première Guerre mondiale. Et puis, Sourche, c'est tout simplement le conservatoire des pivoines. 2733 variétés y sont représentées. C'est dans les douves du château de Sourche, un domaine près du Mans. C'est dans le département de la Sarthe. L'occasion de s'y rendre maintenant. C'est magnifique à voir. Il y a des fleurs d'une beauté absolument.
La plus belle des fleurs, c'est quand même. La pivoine.
Tout à fait, et c'est pas pour rien que je vous en ai offert un bouquet ce matin, Patricia.
Eh bien, qu'est-ce qui me manque.
Quel galant, mais je crois que c'est un mensonge.
Comme un arracheur de blanc.
C'était Alain Baraton, à demain, mon cher Alain.